There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Ce soir, on va parler de Paulo Costa Borrachinha parce que oui, avant de faire la preview, la flash preview d'Israël Adesanya Paulo Costa, ensuite de voir comment Israël Adesanya peut gagner, comment Costa peut gagner puisqu'ils s'affrontent le 26 septembre prochain à l'UFC 253, vraisemblablement sur la Fight Island, pour une deuxième défense de ceinture, ou pas d'ailleurs, d'Israël Adesanya. On va s'intéresser au style Paulo Costa Borrachinha, parce que mon cher Rust, et c'est là, on reçoit énormément de messages par rapport à ça, où justement, les gens parlent de la différence de combat entre Costa Romero et Romero Adesanya. Mais c'est simple, c'est parce que Costa, c'est le seul sur la planète à pouvoir combattre Romero de la façon dont il a combattu, à savoir mettre la pression sur Romero et se dire « Ok, je vais accepter de me prendre des coups, mais je vais aussi en donner. » Personne ne peut faire ça contre Yoel Romero, parce que bah, si vous prenez des coups contre Romero, si vous êtes normalement constitué, bah, vous terminez sur un brancard et vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé quelques minutes avant.
En fait, c'est là où c'est assez particulier. En fait, juste avant que le podcast commence, on était en train de se dire, mais à qui est-ce qu'on pourrait comparer Costa? Parce qu'en fait, il a ce côté un peu berserker. C'est-à-dire que c'est, tu sais, genre chez les Vikings, il prenait, on ne sait pas trop, moi je ne me souviens plus quelle drogue il prenait, mais avant d'aller en combat, de temps en temps, il prenait une espèce de drogue hallucinogène et les mecs partaient au combat en mode, enfin, ils étaient presque transcendés, enfin, ils étaient dans un état second, ils ne ressentaient plus la douleur, ils étaient machin. Et t'as un peu cette impression avec Costa, en fait. T'as l'impression d'une force qui va arriver sur toi. Il va te forcer à un bras de fer, mais que tu ne peux pas gagner, en fait. Il va te forcer à échanger des coups, sauf que lui frappe forcément plus fort. Il va te forcer à tenir la distance, sauf qu'il est capable, petit à petit, de te ruiner les défenses, de te ruiner au corps, de te ruiner en kick, de te ruiner à la tête. C'est un travail de sape, mais sauf que c'est vraiment, il te balance des parpaings de l'espace sur toute la durée du combat et sans s'arrêter, en fait, parce qu'il met une pression. Et on était en train de se demander quel serait l'équivalent. Alors, il y a eu un moment donné où il y avait Overeem, parce qu'il a changé de style quand il est arrivé à un certain point à l'UFC. Mais avant ça, le style Overeem, c'était vraiment, il avait une carapace. C'était le mec, de toute façon, il va frapper plus fort que toi, il va avancer. Alors, il avait déjà un menton qui était un peu plus léger, même au Pride, même quand il était en light heavyweight et tout ça. Mais sauf que, quand il est arrivé à l'UFC, par exemple, contre Lesnar et qu'il sortait du Dream, etc., il se mettait grosso modo en carapace et il avançait sur toi. Et il y a un moment donné où, parce que c'est quand même un striker d'exception, il allait réussir à te choper, que ce soit en kick ou en point, et à ce moment-là, t'étais foutu. Quoi qu'il arrive, t'étais foutu. Eh bien, Costa, c'est un peu pareil, sauf qu'il a le menton, en plus de ça. Et il est technique, alors peut-être un petit peu moins effectivement qu'à Overeem, moins qu'Adesanya qui va combattre, mais c'est pas forcément grave, parce que pour l'instant, son style, alors on va parler un peu plus tard de comment est-ce que ça peut vieillir, un style comme ça, mais pour l'instant, c'est difficile de faire quoi que ce soit, en fait. On va voir ce que ça donne contre Adesanya, et c'est parfait, ça va être le test ultime, contre un technicien ultime aussi, mais pour l'instant, comment arrêter Costa? C'est impossible. Parce que tu ne peux pas le mettre KO. Alors, on a vu qu'il a été knockdown. Enfin, c'est un très...
Par Uriah Hall.
Alors, non, c'était contre Costa. Contre Romero.
Et contre Uriah Hall, ouais. Quand même.
Il y a eu un knockdown contre Uriah Hall?
Oh, ouais. Ouais, bah, je l'ai regardé pas plus tard qu'hier. Ouais, il y a eu un knockdown. Mais qui est... Après, contre Romero, moi, je ne le compte pas en knockdown dans le sens où il glisse, tu vois.
C'est... Ouais, tu sens qu'il est pas, il perd pas la conscience. Ouais. Enfin, tu sens que c'est vraiment flash, quoi.
Alors que contre Uriah Hall, t'as justement un petit on-off très rapide.
C'était comment il l'a mis déjà?
C'était en fait Costa qui arrive et enfin qui met pression sur son adversaire contre et Uriah est contre la cage et je crois qu'il place un 1-2 et le crochet passe, je crois. Je crois que c'est le crochet qui le met knockdown et il se reprend vraiment là direct et ça fait off, pouf et direct il se repose. Il met juste genou à terre et ensuite très rapidement tu vois il recule et c'est bon quoi. Mais c'est le seul moment du combat où il recule et c'était vraiment la première fois qu'il se faisait très très salement toucher, on va dire. Et justement, en plus, c'est là qu'on voit la grosse capacité de récupération de Costa. C'est que je crois que 20 secondes plus tard, c'est là qu'il met KO Uriah Hall.
Ouais, et quelques secondes plus tard, du coup, il a dû remettre en marche la marche avant. Et c'est vrai que c'est là où c'est extraordinaire, c'est que il y a des gens qui frappent comme ça à pleine balle pendant tout le combat. Je sais que c'est peut-être un nom qui ne va pas dire grand-chose, mais Rick Story, c'est un gars qui m'a marqué parce que il était technique aussi. Et honnêtement, si je devais établir à une échelle de niveau, je dirais qu'il est peut-être aussi technique que Costa. Et il frappait pareil, en fait. C'est-à-dire que sur tout le combat, tu le vois, il frappe à fond tout le temps. Mm-hmm. C'est juste qu'il n'avait pas ce pouvoir, il n'avait pas ses mains aussi lourdes que Costa. Il n'avait pas cette mécanique de frappe aussi polie que celle de Costa. Franchement, quand il frappe Costa, il a cette manière. Alors, je sais qu'on l'avait déjà dit, mais tu sais, t'engages d'abord l'épaule et après, tu viens en espèce de comme ça, de fouet, mettre le bras. Et c'est un truc qui fait un peu penser à Canelo Alvarez, dans la manière de frapper, dans la chaîne cinétique qui est créée, la manière de le faire. Et il frappe, tu le sens en fait. Et surtout, il adore tout ce qui est frappe au corps. Et ça, franchement, tu le sens dans les yeux. En fait, il y en a un, je crois que c'est Oluwole Bangbuz. Tu le sens. Il y a des échanges au début, quelques frappes au corps, et tu sens que le mec, il est en mode oh merde. Et en gros, voilà, il y a vraiment ce. Il peut causer cette impression-là. Et c'est même pas cette impression, il peut causer cette espèce de détresse chez les gens, parce que les gens se rendent compte que donc c'est impossible de le faire reculer. Donc forcément, c'est moi qui vais devoir essayer de fuir l'action ou en tout cas de rester à distance. Quand je le touche, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Mm-hmm.
Ouais. Et quand parce qu'il marque quand même. C'est ça aussi. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est le plus impressionnant avec Costa. C'est que tu vois quand même qu'il se prend du dommage. Mais ça lui fait... Enfin, physiquement, il est atteint. Mais sinon, tu le vois toujours. Il sourit. Il demande au mec de venir. Et ça, c'est ça qui doit être le plus frustrant. Parce qu'on l'a très bien vu sur le combat contre Uriah Hall. Où Uriah Hall, on en parlera bien évidemment dans la preview à Adesanya Costa. Il faisait un super travail en jab. Physiquement... Ouais. Le mec qui était le plus atteint, c'était Costa parce qu'il avait la bouche hyper gonflée, il saignait, mais pourtant, il continuait de mettre la pression, toujours le même smile. Et juste après le flash knockdown, il se fait mettre KO parce que, au bout d'un moment, t'es brisé mentalement parce que tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus en fait ?
Et en fait, le fait, c'est vrai que ça, c'est injuste. T'as des gars comme Anderson Silva, t'as l'impression que jamais ils marquent, ils sont jamais coupés, ils saignent jamais. Et t'as des gars comme Georges Saint-Pierre, comme Miocic et comme Costa, il en faut quelques-unes et le mec ça se transforme, enfin je sais pas, c'est en une carte des Alpes, tu vois, en relief. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'empêche pas, mentalement ça ne change rien pour Costa. Tu sais, ça fait vraiment, t'as l'impression de voir le Terminator, tu sais, t'as la peau qui s'enlève, t'as les yeux qui se barrent en couilles et tout ça. Sauf que c'est que le skin, parce qu'en réalité derrière t'as le crâne en titanium et que ça bouge pas. C'est un peu pareil en fait Costa. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est que c'est un gars, mentalement, il veut briser ses adversaires. Ouais. C'est-à-dire que physiquement, déjà, il y a un énorme impact. C'est que dès les premiers coups de Costa, quand t'es son adversaire, tu te dis « Ok, ma seule chance, grosso modo, visiblement, ça va être qu'il s'essouffle. Mais est-ce que, même si ça dure 10-15 minutes, est-ce que je peux attendre comme ça 10-15 minutes ? Non, en fait, non, c'est impossible. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, c'est quand il tombe sur des mecs comme Romero que tu ne peux pas briser mentalement, c'est impossible. Romero, c'est vraiment le mec à 40 piges, il s'entraîne à la cubaine depuis qu'il en a probablement 12. C'est un mec qui est absolument unique. Je ne pense pas que ce soit possible, de la même manière que les frères Diaz, de la même manière que des gars comme Max Holloway, que Dustin Poirier. C'est impossible, je pense, de briser mentalement un gars comme Romero. Et c'est là où ça a été effectivement intéressant, c'est que Romero, c'est aussi, en même temps, peut-être le seul gars qui est effectivement pas forcément fait en chair humaine, mais visiblement, on ne sait pas si c'est du cuir tanné ou si c'est du bois, mais le mec a même pas l'air de prendre en compte quand il prend du dommage, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il peut prendre un high kick pleine balle de Costa, bah il continue en mode bon, c'est quand qu'on commence, tu vois. Et c'est vrai que c'est rarissime. Je pense qu'il y en a, il y a que Romero, en fait, sur le roster du UFC.
Non, c'est clair.
Et Costa a été capable de prendre Romero, de le faire reculer et de lui infliger aussi du dommage, même si à la fin Romero revenait sur 15 minutes. Et c'est vrai que c'est unique comme style. Alors évidemment, en fait, juste avant le podcast, on évoquait qui est-ce qu'on pourrait comparer. Donc il y avait Overeem à la limite, il y avait aussi des gars comme Anthony Johnson, mais c'est vrai qu'Anthony Johnson, c'est aussi un one-shotter, en fait. C'est-à-dire que Costa, c'est un mec, ça va être du travail de sape, et sauf que c'est de la grosse, grosse sape de marin pêcheur, donc ça, tu ne tiendras pas très longtemps, mais c'est de la sape quand même. Alors qu'un gars comme Anthony Johnson, c'est du one-punch, c'est l'interrupteur.
Après, quoi. C'est vrai qu'aussi, pour l'instant, on n'a pas eu tant que ça. J'y pensais aussi en regardant les combats de Costa, c'est qu'il est seulement à 13 combats pro. Et contre Romero, c'était la première fois qu'il voyait aussi un troisième round. Donc, c'est vrai que par rapport à tous les mecs, on cross va faire la comparaison de style de Costa, c'est que pour l'instant, je pense aussi, on n'a pas beaucoup vu, en fait. On n'a pas tant vu ça que Costa. Et peut-être que là, ce premier combat contre Adesanya, c'est son premier combat qui est prévu en 5 rounds. Et c'est peut-être pour lui la première fois où il y a aussi au 4e round, au 5e round. Et où là, on va aussi vraiment savoir. Parce que même si... Tu vois, même s'il venait à perdre ce combat-là et qu'on avait la même intensité, entre guillemets, sur les quatrième et cinquième rounds, on pourrait se dire, OK, c'est quelque chose qui est potentiellement durable, parce qu'on en avait parlé lors du combat contre Romero. Certes, le troisième, ça commence à devenir très, très chaud, mais quand même, à chaque fois qu'il essayait de toucher Romero ou qu'il essayait justement d'attaquer, enfin, il y avait toujours cette même pression. Elle était peut-être moindre, mais même quand il lançait ses coups, c'était quand même pleine balle. T'avais pas une espèce d'attitude qui signifiait bon bah panique à bord, là clairement j'ai plus d'endurance, j'ai plus rien dans le corps et vivement que ça se termine. On voyait qu'il était à bout de souffle, on voyait clairement il y avait un round de plus, ça sentait très mauvais pour lui, mais il essayait quand même de montrer, de tenir en respect Yoel Romero.
Ouais, c'est là aussi, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce que c'est vrai que c'est Crocop, bon après c'est Crocop qui le disait, mais c'est vrai que c'est une phrase qui est assez répandue, mais c'est le fait que le fait d'être fatigué, ça révèle le couard en toi, ça révèle le, enfin tu sais, coward en anglais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mais la fatigue révèle le couard en chacun de nous, et c'est tellement vrai, enfin c'est vrai que un combat, c'est le révélateur ultime en fait, parce que quand t'es fatigué et quand tu te rends compte que ton gas tank est quasiment vide et qu'il reste encore du chemin à parcourir dans le combat, c'est le truc le plus terrifiant qui puisse arriver en fait à un combattant, parce que tu dis, et surtout si la personne en face n'est pas dans le même état, ouais. et sans le vent tourner, c'est le truc le plus terrifiant, parce que tu peux avoir le plus de skills au monde, bah voilà, Conor McGregor, Nate Diaz, enfin typiquement quoi,
tu peux
être le mec numéro 1. Et numéro 2, heureusement, c'est là, respect à Conor McGregor quand même, malgré tout, parce qu'il s'est passé grosso modo la même chose, sauf que là, il s'est souvenu du premier combat et qu'il a tenu. Mais malgré tout, c'est un peu ça, en fait. C'est ça la dynamique. C'est, ben, tu commences, t'es le mec le plus, t'as le plus de compétences au monde, t'es un one-shotter, tu te déplaces, c'est magnifique, etc. Tu mets knockdown une fois, deux fois. Sauf que si le mec ne tombe pas et n'est pas KO et que t'arrives pas à l'éloigner, s'il revient et que toi, tu sens, ah merde, donc je lui ai mis le maximum en termes de puissance, je lui ai envoyé le maximum. Je lui ai donné mes meilleurs coups. Il a été knockdown, mais il revient. OK, en fait, donc là, qu'est-ce que je fais? Il reste 15, 20 minutes. Moi, je suis déjà à moitié mort. Et lui, il commence un petit peu à s'échauffer parce que, à part les knockdowns, ben lui, il a un style qui est un peu différent. Il a un style qui fait qu'il peut tenir. C'est absolument terrifiant. C'est une angoisse, c'est abyssal en fait. Et c'est vrai que c'est là où c'est impressionnant, c'est que Costa, il l'a. Alors après, c'était pas en 25 minutes. Si jamais le combat avait été en 5 rounds, là, peut-être que ça aurait été un peu différent. Je pense que psychologiquement, il devait savoir qu'il était à 2-3 minutes de la fin du truc et que bon, il lui suffisait, entre guillemets, de tenir.
Et puis donc, ça faisait partie de la stratégie aussi, je pense aussi, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là où ça va être intéressant contre Adesanya. Après, je soupçonne Costa de se dire, je pense pas qu'Adesanya encaissera aussi bien que Romero. Et ouais, c'est possible aussi, mais après, il sera peut-être moins touché aussi, probablement. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant de la part de Costa. Voilà, c'est Voilà, c'est ce qui m'impressionne par rapport à ça, c'est qu'effectivement, malgré la fatigue, déjà le fait qu'ils tiennent deux rounds et demi à très très gros rythme, c'est déjà impressionnant vu la masse du bonhomme. Honnêtement, c'est déjà extrêmement impressionnant.
Et en se prenant autant de dommages aussi, parce que c'est vrai que ça, les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il a quand même pris cher Costa dans ce combat-là. Et c'est tout. Ouais. C'est une chose de tenir 15 minutes et d'être extrêmement actif comme il l'a fait, mais c'est complètement différent d'être très actif et en même temps de se prendre des parpaings de l'espace par Yoel Romero et d'être toujours là à la fin. Et je pense que là aussi, c'est ce qui va beaucoup changer par rapport à Adesanya. Je pense que même si Adesanya le touche, même si Adesanya venait à remporter le combat, je pense que par rapport au coup, peut-être en fin de combat, mais sinon, ça va être quand même beaucoup moins violent que ce que Romero lui a mis. Parce que Romero, de temps en temps, quand il deuxième, troisième round, quand il est passé pas très loin de le finir, il y a eu ce genou sauté, il y a eu même un petit moment où il a réussi à le coincer contre la cage, c'était quand même assez chaud. Hein. Donc, et je pense qu'Adesanya le touchera, mais à mon avis, ce sera pas aussi violent que ce que Romero lui a mis. Et le fait qu'il ait toujours été debout et qu'il soit pris juste le tout petit knockdown, qui est quand même bien moins violent que celui qu'il a mis à Romero, ça permet de se dire... Ouais. Ça fait flipper, puis surtout, on avait parlé aussi par rapport à Henri Cerrudo, et c'est là que je tire le chapeau que je n'ai pas au coach Eric Albarracín, exactement. C'est cette capacité à transmettre à ses athlètes le fait que, ok, vous avez mal, mais il faut passer par là. Et ça m'a vraiment fait, le combat contre Romero m'a fait énormément penser au combat de Cerrudo contre Moraes, où vraiment il y a ce, ok. On a vu que ça marchait pas, tu t'es fait pilonner les jambes, bah maintenant, il faut que tu mettes la pression. Ok, tu vas prendre des coups, mais si tu mets la pression, tu vas aussi en donner. Et au bout d'un moment, l'autre en face va se briser. Et les mecs, ok, ils prennent comme ils n'ont jamais pris dans leur carrière, mais à la fin, ils sont victorieux. Et réussir de se dire, il faut que je passe par les enfers, mais à la fin, je vais réussir à m'en sortir face à Moraes et Romero. Faut quand même le faire et pour moi c'est chapeau parce que Albarracín ça fait pas très longtemps qu'il collabore avec Costa et le fait qu'il ait vraiment cru en lui comme ça et que sur un combat il ait pu faire un truc aussi exceptionnel parce que personne s'attendait à ce qu'il batte Romero, bah pour moi ça en dit très très long sur Paulo Costa parce que notre cher Rust l'avait aussi vu lors du teuf où c'était un Costa bien évidemment différent.
Ouais parce que lors du teuf c'était en fait, j'ai hésité à dire un diamant brut, mais en fait, même pas, parce qu'en réalité, honnêtement, et je crois que c'était le tough Wanderlei Silva contre Chael Sonnen, et Chael Sonnen lui-même, Chael Sonnen, disait, honnêtement, à ce moment-là, alors c'était quelqu'un de physiquement, tu sentais qu'il était baraque, et tu sentais qu'il en voulait, mais il n'était pas spécialement talentueux, et il était encore vraiment très très novice en fait. Enfin, il n'avait pas beaucoup de technique. Il était mort de faim en fait. Mais à l'époque du teuf, il y a quelques années seulement, franchement, c'est vrai que personnellement, j'aurais pas forcément misé sur Costa non plus parce qu'en fait, tu te dis, c'est un gars, il est monstrueux physiquement. Donc, la première réflexion qui vient généralement, c'est donc ça veut dire qu'il va se crever probablement très facilement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à dire parce que un gars comme Romero, comme Tyron Woodley, et les gars qui sont tankés de ouf et explosifs, généralement en fait, parce qu'on peut pas tout avoir, c'est un équilibre. C'est des gars qui ne peuvent pas vraiment tenir sur la durée s'ils ont un certain volume. Or effectivement, Costa aime bien travailler en volume parce qu'il adore mettre la pression de ouf. Et donc c'est vrai que de prime abord au tough, c'est pas évident de se dire ce mec-là, il faut miser dessus, c'est le futur. Parce que tu dis, il en veut, c'est clair, mais un, il a pas beaucoup de technique. Deux, il est énorme, il cut énormément de poids. Et trois, il a un style explosif et en volume. Enfin, ça paraît délirant. Et pourtant, il est là. Quelques années plus tard, effectivement, ce qui est quand même impressionnant, il est techniquement maintenant, je trouve que c'est magnifique, j'adore sa manière de frapper. Évidemment, c'est un striker qui est beaucoup moins subtil que Adesanya. Mais j'adore sa manière de frapper, la mécanique de frappe et tout ça. Et en plus de ça, même si effectivement au bout du troisième round contre Romero, ça commence à tirer un peu, malgré tout, il est là sur plus de deux rounds à une intensité que si t'es pas Romero, tu ne peux pas tenir en fait. Donc c'est vrai que
personne n'a jamais fait ça, Romero aussi.
Ouais, c'est ça. Enfin, accepter comme ça le duel, là tu vois, Justin Gaethje, il parle d'accident de voiture. Ouais. Bon, là c'est bon, c'est en plus c'est des poids lourds quoi pour le coup. Et enfin, dans l'idée, évidemment, c'est une idée. mais voilà, et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Adesanya, j'aurais juste une toute petite note si je peux rajouter. Enfin, si je peux, temporiser par rapport à tu disais, il se sera jamais pris des pains comme ça. Donc là, il a pris le pire possible contre Romero. C'est vrai en termes d'impact et de puissance pure. Mais d'un autre côté, c'est vrai que. Heureusement, les frères Diaz nous ont appris, parce que tout le monde les a suivis et que tout le monde les adore et qu'ils sont mainstream, que même si tu ne frappes pas comme un sourd, avec du volume et avec du volume de la précision et du timing, tu peux rendre les mecs complètement hagards, en fait. Et c'est ce que disait Frank Shamrock qui a combattu Nick Diaz. Il disait les punchs, ils sont pas forcément ultra puissants, mais sauf que, un, tu les vois pas venir. Et deux, ils sont quand même suffisamment puissants pour, c'est ce que disait Frank Shamrock, rattle the brain, c'est-à-dire, ben genre, il te...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu sens que le cerveau, il frappe contre les parois parce qu'il frappe pile contre le menton, que ça fait vibrer la tête, que ça bouge dans tous les sens. Et ça, c'est ce que peut amener Adesanya. Et certes, ce n'est pas des impacts entre guillemets aussi franc dans le sens que tu vois venir, c'est juste que tu peux pas les supporter physiquement que Costa, mais des combinaisons de 1, 2, 3, 4 coups qui viennent de partout, qui se finissent par un crochet pile sur le menton ou des directs que tu vois pas venir, ça peut être tout aussi destructeur pour le cerveau et ça peut être tout aussi, ça peut te c'est pas déstabiliser, ça peut te, c'est pas désorganiser, mais... tu peux être dans le mal tout pareil. Enfin, c'est pas de la même manière, mais tu peux être énormément dans le mal face à un mec qui strike en volume et en précision. Donc, et c'est pour ça que je personnellement, je ne mets pas complètement hors des possibles le fait que, à force de se faire toucher, mais de manière vraiment maîtrisée, subtile, par des coups qu'il ne voit jamais venir, en gros, ils finissent par être complètement aux fraises et complètement dépassés en mode. Enfin, un petit peu, tu sais, en mode Kevin Gastelum dans le cinquième round contre Adesanya, tu sens que le mec, c'est un peu comme si tu combattais Flash Gordon, tu vois, tu sais même plus d'où ça vient, tu te fais frapper de partout, tu comprends rien, et ton cerveau dit stop, et ton corps dit stop, quoi.
Ah mais non, mais ça, de toute façon...
Même si c'est Costa, ça peut arriver, et particulièrement au quatrième ou cinquième round, si jamais il s'est fait toucher, sans voir venir pendant quatre rounds et demi, c'est possible, même si c'est Costa, qu'ils finissent par être complètement dans les choux.
Ah oui, mais ça, de toute façon, ça ne fait aucun doute. Hein. De toute façon, on l'a dit plusieurs fois, hein, et moi, je suis persuadé que si Adesanya est toujours là après deux rounds, il bat Costa par TKO, parce que ça veut dire que, tout simplement, le plan de jeu de Costa n'aura pas fonctionné, et qu'Adesanya aura résisté, aura traversé la tempête, et là, bon courage, parce que t'es terminé. Mais, et pour finir sur Costa, moi, j'ai juste, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, en fait, certes, pour l'instant, on est très impressionné par la puissance, par l'intensité de Paulo Costa, mais c'est vrai que le seul véritable test, c'est un combattant niveau élite, qu'il a eu, c'est contre Yoel Romero. Donc, ça fait, je trouve, c'est un peu faible, mine de rien, parce que c'est un seul combat. C'était un combat en trois rounds. Et j'ai peur, tu vois, qu'on ait le plus ou moins un Shane Carwin bis, tu vois, où tu as ce côté, le mec qui tue une machine, le mec résiste à tout. Et là, on ne va pas dire qu'il est rusher, mais il a le title shot parce qu'il a battu Yoel Romero. Et clairement, si vous battez Yoel Romero, vous méritez votre title shot, il n'y a aucun problème. Mais là, ça va être son premier vrai main event combat en 5 rounds face à un mec qui a l'habitude de faire ces combats-là, qui sait aussi gérer. Parce que c'est vrai que Costa, pour l'instant, et c'est là. Enfin, il y a eu le fait qu'il était. Il a eu Johnny Hendricks, on lui a jeté quelques mecs en pâture comme ça, mais il n'a jamais eu à gérer un combat. Adesanya, il sait très bien gérer un combat. Et Yoel Romero, pareil, sur le combat. Yoel Romero, en 5 rounds, il sait gérer. Là, en 3 rounds, c'est complètement différent. Et j'ai un petit peu peur de ça, où ce ne soit pas trop tôt pour lui, mais tu vois, qu'il découvre un petit peu au fil du combat, qu'il soit. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça se passe, un combat en 5 rounds. Et que quand il va avoir. Si ça se passe comme ça doit se passer, à savoir, tu vois, quatrième round, Adesanya est toujours là, et que lui, il a une grosse baisse physique, il fait « Ah merde, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, tu vois.
Et c'est vrai que c'est vachement, c'est là où c'est, le combat il est tellement ouf, parce qu'en fait c'est des deux côtés, c'est un peu terrifiant, parce que du côté de Adesanya, t'es en mode ok, le mec ne sait rien faire d'autre que d'avancer et d'être un taureau, mais enfin vraiment un truc, tu peux pas y échapper. Donc c'est absolument terrifiant. Enfin, quand tu sais la puissance, le joule à laquelle frappe le mec, c'est absolument terrifiant comme idée de se dire ça va être une petite cage et je vais pas pouvoir lui échapper et il va falloir survivre pendant 10 minutes contre un mec qui frappe comme une fusée. Mais pour Costa, c'est terrifiant aussi. Parce que tu te dis, si jamais le mec me fait une Mohamed Ali George Foreman et qu'après deux rounds, il a pris mes pires bombes au corps et qu'il est toujours là...
Non, il sera pas là. Il sera... Non, par contre... Ah, non.
Ah, là, par moi, contre... j'en sais rien.
Ah, ben moi, je vous le dis, monsieur. Moi, je vous le dis. Je pense que clairement, par contre, c'est impossible. Je pense qu'Adesanya ne peut pas avoir une stratégie dans le sens... Enfin, à la Ali où il se prend les coups, tu vois. S'il se prend les coups, clairement, je pense qu'il n'y a plus d'Adesanya.
Non, je dis pas
dans le sens, il va esquiver tout.
Non, c'est pas ça, en fait. Je dis pas qu'il faut qu'il fasse une Mohamed Ali dans le sens rope-a-dope contre une cage, en plus, génial. Dans le sens encaisser et faire se crever Costa, parce que je pense que ce serait le pire contre une cage. Oui. Mais je dis juste, admettons qu'il fasse une Mohamed Ali dans le sens, il encaisse, c'est-à-dire qu'il essaye sa stratégie, évidemment, il prend des coups, mais il arrive à les encaisser. Et là où c'est terrifiant pour Costa, c'est de, si jamais Costa, sur les 5 premières minutes, il a pris les pire bombe de Costa et il commence le deuxième en mode ça va toujours t'es frais là en mode tu sais en le moquant un peu à l'autre bout de la cage etc. Ça peut être pour Costa le truc le plus terrifiant du monde parce que tu te dis donc là le rythme que je viens d'imposer pendant 5 minutes je peux pas l'imposer pendant 20 minutes encore, c'est impossible, je lui ai mis les pires, je lui ai mis l'intensité la plus élevée que je pouvais lui imposer, il est là, il est frais. Ok, il y a de la chance que ce soit du poker. Il y a peut-être une chance qu'il soit en mode bluff, mais il y a quand même une chance que non. Mmh. Et psychologiquement, si c'est ça, ça va être absolument terrifiant. Parce qu'en plus de
mais ça. Je pense pas. Je pense tellement pas. Non, mais parce qu'en Adesanya, il est trop intelligent. Parce que, enfin, là, on est en train de faire déjà un podcast preview, mais tu vois, contre Anderson Silva et contre Romero, tu vois, c'est des combats qui étaient. On les attendait, mais c'est des combats qui ont déçu beaucoup de fans, mais d'un côté qui, moi, m'ont montré qu'Adesanya était vraiment extrêmement intelligent, dans le sens où c'est le gars, il a beau être dans un combat où tout le monde lui parle de ce combat-là, lui dit ça va être un feu d'artifice, ça va être machin, non, il vient à la base quand même pour la victoire. Et donc, quitte à décevoir les mecs, non, il va appliquer un game plan et il va zéro prise de risque. Et je pense que contre Costa, voilà, zéro prise de risque parce qu'il a le titre, il sait ce que ça apporte ce titre, il sait qu'il peut avoir les combats, il sait qu'il y a le combat potentiel contre Jon Jones qui peut arriver en 2021, il sait qu'il y a tout ça, donc je pense qu'il va pas du tout jouer sur tous les deux premières. Éventuellement, tu vois, en fin de combat, il peut tenter deux trois trucs, mais au début, bof. Mais et je suis d'accord avec toi, par contre, s'il fait ça, pour le coup, s'il fait ça, ben c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que clairement, tu te dis qui va pouvoir aller le chercher. Personne.
Ouais, parce que là, il aura vraiment vu de tous les styles, quoi. Et c'est vrai qu'à part un style et un physique comme Jon Jones, et donc ce sera intéressant s'il va en light heavyweight, mais là, on commencera à dire qui, en fait. Qui pourra prendre Adesanya, parce que... Alors évidemment, on pourra toujours dire, mais contre Romero, il n'a pas vraiment... C'était pas un lutteur du calibre Romero. Enfin, disons, c'était Romero, mais qui n'a pas lutté. Ouais. Il n'a même pas vraiment combattu, donc on ne sait pas ce qui se serait passé, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est vrai que s'il passe Costa, là, va falloir se lever de bonne heure pour réussir à trouver le style qui va mettre en danger Adesanya, quoi. Mais c'est vrai que pour Costa, et tu penses que Costa, il va arriver du coup en mode comme d'habitude ?
Ah oui, moi je pense que Costa, il va arriver comme d'habitude. Bah, il sait, de toute façon, il n'y a pas de... C'est soit il perd par décision... En ne mettant pas la pression, en mettant pas une pression constante. Et s'il ne met pas une pression constante, pour moi, il perd par décision. Il perd sans se prendre trop de dommages, mais il perd par décision, chacun rentre chez soi. Mais c'est oublié, il perd forcément. Soit il met la pression quand même.
Mais s'il perd par décision, il se sera pris des dommages, hein. C'est obligé.
Il sera pris des dommages. Non, dans le sens, il ne met pas la pression et tu vois, un combat façon Romero, façon Anderson Silva, tu vois. Ou en gros,
il ne saurait pas faire. Il ne saurait pas faire, je pense ça.
Bah, peut-être. Peut-être, dans le sens où, en gros, on le voit pour la première fois, parce que c'est son premier main event aussi en 5 rounds, Ou tu vois, il peut aussi se dire, je peux peut-être pas tenir. Ou alors, il y va comme d'habitude en mode, je mets la pression. Et là, du coup, c'est clairement, c'est soit je termine Adesanya, soit je me fais terminer. Enfin, ouais. Bien évidemment, en son état d'esprit, bon, c'est je termine Adesanya. Ouais. Et où là, je pense qu'il a une chance. Mais s'il a avec vraiment l'état d'esprit, tu vois, de j'essaye de gérer pour justement ne pas me retrouver en quatrième, cinquième, où c'est grosse sonnette d'alarme, je pense que c'est dès le début, c'est plus ou moins mort pour lui. Ouais. Alors que s'il met la pression, là, il s'offre une véritable chance. Et puis surtout, personne n'a jamais fait ça, tu vois. Personne n'a jamais fait ça. Et tu as juste eu, mine de rien, Kelvin Gastelum jusqu'à ce qu'Adesanya fasse les ajustements. Et en début de combat, bah, Kelvin Gastelum, ça marchait. Dans un style différent, mais ça fonctionnait. Donc, tu sais, les quelques petits échantillons vont dans ce sens-là, même si... compliqué, parce que là, tu fais quand même un sacré pari. Mais après, c'est vrai que tu vois, franchement, tous les combats qu'il a fait, Paulo Costa, c'était des sacrés paris. On parlait de sa puissance, honnêtement. Le combat contre Yoel Romero, moi, je voyais Paulo Costa perdre. Je ne le voyais surtout pas faire un combat comme ça. Et vraiment, pardonne l'expression, hein, mais il est allé au charbon. Il est allé au charbon ce soir-là. Et, non, mais tu vois, et ça a payé. Ouais. Et si on nous avait dit, bah, t'as un mec qui va mettre la pression sur Romero, qui va accepter de se prendre des coups et qui va se dire, pot de fer contre pot de fer, littéralement, on y va.
Ouais.
On aurait dit, c'est complètement fou. Quoi.
Contre Yoel Romero, c'est complètement dingue. Ouais.
Et ben, il l'a fait.
Je pense que ça restera le seul dans l'histoire à l'avoir fait. Parce que même maintenant, personne n'osera faire ça contre Romero. C'est impossible. Et personne n'a la puissance pour, de toute façon.
Mais c'est ça. Et puis, c'est le genre de truc, je pense que si... ne serait-ce que, c'est exactement ce que tu as dit, ne serait-ce que, tu vois, de balancer les plus grosses bombes à Yoel, de le mettre knockdown, et tu vois qu'il est toujours là, au deuxième round, tu te dis, non, j'ai pas envie de m'infliger ça, parce qu'en plus, le mec, il peut potentiellement me mettre au sol. Et là aussi, Paulo Costa, il a placé un takedown à Yoel Romero. Enfin...
Ouais.
Bref, non, mais tout ça pour dire que vraiment, pour l'instant, en tout cas, la puissance de Paulo Costa est dingue, et je voulais ajouter à lui un truc. Mon cher Rostoula, moi aussi, ça me, à la différence de Dominique Reyes, on ne peut pas toujours tirer sur lui. Mais c'est vrai que par exemple, hier, il y avait le combat, on va en parler un petit peu, de Rakic. Il était toujours là pour clasher ce pauvre Rakic. Paulo Costa, moi, j'aime bien son attitude dans le sens où, OK, ce n'est pas le meilleur en anglais, mais il a réussi à se développer un personnage sur les réseaux sociaux qui est aussi hyper cohérent. Bah, par exemple, tu as Adesanya qui fait que de dire « t'es chargé, bah, OK, bah, je vais tweeter pour dire que l'USADA n'est jamais venu me chercher au Brésil ».
Ouais.
En fait, je trouve que c'est génial parce qu'il adopte vraiment à fond, quitte à avoir le fameux KOB dont Ross vous parlera. Mais pour le reste, tu vois, je trouve que c'est vraiment... il est très cohérent dans son personnage qui, clairement, ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins, tu sais ce que tu as avec Paulo Costa.
Ouais. Honnêtement, moi, je dois avouer que je l'adore, Costa. En fait, même au niveau personnalité, alors en fait, c'est... Là, il est effectivement dans un délire all-in, en fait. Là, il a mis tapis sur... il est vraiment... J'ai l'impression qu'il est lui-même. C'est-à-dire, bah, c'est clairement, par exemple, avec Adesanya, il est en mode... quand on lui parle de l'USADA, il a été testé, hein, bien évidemment. Il a été testé, je crois que c'est même plus de 15 fois par l'USADA, mais c'est que elle n'a pas dû venir au Brésil.
Non, en 2019, mais ils ne sont pas venus en 2020.
En
2020, c'est assez chaud, hein, parce que même Adesanya, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'avait pas été testé. Non, en 2020, avec le Covid...
Normal. Hein. Ouais. Mais donc, le fait qu'il en joue, et parce que évidemment, c'est du second degré, c'est quand même très marrant. Et il y avait aussi, dans ses interviews, tu vois, il parle pas très bien anglais, mais pourtant, il te lâche des punchlines. Il y en a une que j'ai tellement kiffé.
Avec les cheveux, là.
Il y en a deux que j'ai kiffé. La première, c'est, à un moment donné, tu vois, il parle du fait que bah, lui, il a été au charbon contre Romero, et puis alors qu'Adesanya l'a regardé dans le blanc des yeux pendant 25 minutes. Et il ajoute, parce que du coup, Adesanya avait les cheveux roses dans cette interview, la seule chose la plus stupide que les cheveux roses d'Adesanya, c'est son combat contre Romero. Donc ça, c'est la première punchline, et il le dit en anglais, ce qui est quand même extraordinaire. Et la deuxième que j'ai kiffé, et c'est vraiment ça court-circuite le trash talk de façon parfaite, en fait, parce que Adesanya, c'est quelqu'un qui est, tu sens qu'il a, il a beaucoup d'esprit, dans le sens ça va très très vite, ça pulse au niveau de la répartie, etc. Mais il y a des moments où tu as un petit peu l'impression que c'est un peu un enfant dans sa manière de réfléchir, Adesanya, malgré cette répartie. Et j'ai l'impression qu'il l'a très bien compris, et il se place un petit peu en mec qui prend ça de haut et qui se permet, tu sais, d'envoyer des pics comme si de rien n'était. Et c'est donc ce qui a donné naissance à son deuxième truc. C'est à un moment donné, tu as Adesanya qui, c'est dans l'interview, tu sens qu'il se dit, ouais, là, j'ai un angle, je vais pouvoir le tenir, tu vois, c'est mon trash talk, c'est mon domaine, le trash talk, et avec ça, je vais l'avoir. C'est le moment où ils étaient à Vegas ou je ne sais plus trop quoi, ils se sont croisés dans un couloir et ils ont attendu je ne sais trop quoi. Et en fait, Paulo Costa ne regardait pas Adesanya, ne le regardait pas, en fait. Il ne regardait pas dans les yeux, il ne le regardait pas. Et Adesanya dit, mais à ce moment-là, du coup, tu ne m'as même pas regardé, etc. Et Costa, et tu sens dans sa manière de répondre qu'il s'en branle vraiment. Il répond, oui, je m'en souviens de ce moment-là, mais en fait, moi, ce que je pensais, c'est que j'ai vu un mec super maigre là-bas, je pensais qu'il était du Cirque du Soleil, donc bah, je pensais à autre chose. Et il le dit en anglais, tu vois, « I thought he was from Cirque du Soleil ». Et il le dit d'une manière tellement détachée, honnêtement, c'est gold, c'est certifié gold. Il a toute une personnalité qui va avec, et c'est assez frais parce que c'est marrant. Il a, tu vois, des personnalités de destructeur. Généralement, c'est un peu des gars comme Robbie Lawler, tu vois, enfin, ou alors des Anthony Johnson, des mecs qui parlent pas beaucoup parce que, entre guillemets, ils parlent dans la cage. C'est d'ailleurs ce qu'ils répondent quasiment à chaque fois. Moi, je parle dans la cage. Mais lui, il a ce côté, non seulement il parle dans la cage, mais en plus, il parle en dehors et il aime bien le trash talk. C'est un espèce de mix, entre guillemets, parfait pour le 21e siècle et le MMA, dans les années 2020, quoi, plutôt.
Exactement. Et c'est pour ça que ce combat est extrêmement important pour lui, parce que c'est vrai que je pense en cas de victoire, ça ajoutera au côté terrifiant. Mais par contre, ouais, si en cas de défaite, ça risque un peu de s'effondrer comme un château de cartes, parce que entre ça, les weight cutting qui sont complètement dingues avec lui, avec le fait que bah il récupère 12 kilos en 24 heures entre la pesée et le jour du combat, tous les espèces de trucs justement avec l'USADA, cette blessure au biceps. Enfin, il y a énormément de mystères aussi autour de Paulo Costa, et comme on l'a dit, lui aussi en joue. Enfin, ouais. Il a vraiment réussi à se créer un personnage complètement terrifiant. Et là, avec ce combat-là contre Adesanya, c'est vraiment soit la confirmation, et je pense, peut-être pas superstar, parce que bon, tu vois, il reste brésilien, tout ça, mais on pourrait avoir vraiment quelque chose d'intéressant, ou alors, je pense qu'il sera condamné, entre guillemets, à être l'un des animateurs de cette catégorie middleweight, mais façon Anthony Johnson, où tu sais que le gars sera pas champion, mais par contre, tu le regardes avec plaisir parce que tu sais que tu as une exécution, ou sinon quelque chose de très, très violent.
Ouais, parce que c'est vrai que, en revanche, comment est-ce que vieillit un style comme ça ? Parce que tu l'as dit, en fait, il y a déjà le côté dans la cage, c'est-à-dire, il accepte de prendre des coups, c'est-à-dire que c'est j'accepte d'en prendre deux pour t'en donner un. C'est juste que le coup que je vais te donner, il va t'envoyer sur Jupiter. Mais c'est ça l'idée. Et en plus de ça, un style, ça me fait beaucoup penser à Cain Velasquez, en fait. Tu sais, t'as l'impression qu'il est toujours à 100%. T'as l'impression qu'à l'entraînement, il est toujours à 100%. En combat, il est toujours à 100%. Et forcément, ça doit avoir un impact sur le...
Et c'est ce que Costa a dit, d'ailleurs.
Bon, bah voilà.
Je crois que je suis le mec le plus dur de la planète. Je suis à 100% en entraînement et en dehors, et c'est ce qui m'a permis de me préparer à Yoel Romero.
Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on profite là de Costa maintenant. Ouais. Parce que je vois mal comment est-ce que, à un moment donné, dans les années qui viennent, et plutôt plus proche que lointain, il n'y aura pas un espèce de démantèlement total. Tu sais, une espèce de. Tout s'écroule. C'est-à-dire que ce soit au niveau du cerveau, soit c'est son menton qui lâche, soit c'est son corps qui lâchera avec... là, il est encore relativement jeune, c'est pour ça peut-être que ça le sauve aussi. Mais si les blessures s'accumulent, son corps va à un moment donné tomber en ruine. Ouais. Et ou alors, effectivement, son corps qui dit stop au weight cut. On sait que ça peut... Voilà, il y a l'exemple Daniel Cormier, par exemple, au JO de 2004, qui a été privé de JO parce que son foie l'a lâché.
2008
donc, 2008, voilà, c'est ça. Et donc, on se dit, c'est compliqué probablement, profitons-en maintenant là, parce que c'est compliqué de tenir un tel rythme, une telle fréquence d'entraînement, psychologiquement, de tout ce qu'on veut. Maintenir un Paulo Costa comme on l'a maintenant, là tout de suite, c'est impossible sur la durée.
Non,
donc, profitons-en bien, quoi.
Profitons-en bien. Et ce qui sera d'autant plus... J'avais envie que ce soit le mot de la fin, mais bon... C'était pour dire aussi, ce sera d'autant plus intéressant avec le style de Paulo Costa, c'est s'il peut un jour se réinventer, tu vois. Si, par exemple, il arrive à faire un superbe run chez les middleweight, lui-même le sait, il l'a dit, bah, il ne me reste pas beaucoup de temps, parce que c'est vrai que les weight cutting, bah, vous le voyez, c'est extrêmement dur, on dirait, c'est un cadavre ambulant, clairement, quand il arrive sur la balance. Il va monter chez les light heavyweight et il sera intéressant de voir si il adopte la même stratégie en light heavyweight ou si, au contraire, il se renouvelle. Et s'il se renouvelle, ce sera hyper intéressant, même si là, j'ai quand même de sérieux doutes aussi. Et comme tu l'as dit, hein, au bout d'un moment, de toute façon, ce style-là, ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui soit suffisamment résistant pour que vous mettre un gros stop, ou alors un mec qui arrive à le cueillir au premier round. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours un peu compliqué parce que tu commences à te dire il faut vraiment que le mec prenne sa retraite. Donc, comme tu as dit, profitons-en. Parce qu'il a quel âge, notre cher Paulo Costa là?
Il
a
29 ans. Hein? Il a 29, là?
29, oui. 21 avril 1991. Ouais. Ouais. On vieillit, mon cher Rust.
Moi, je tape 29 ans dans le moteur de la tête. Paulo Costa. Ouais. Effectivement. C'est marrant de le voir comme ça, que lui-même se dise faut que je fasse vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça fait vraiment, tu sais, j'étais en train de me demander à quoi ça fait penser. Ça fait un peu penser à le film qui vient de sortir, Project Power, où en gros, tu sais, tu mets ta montre parce que tu sais que t'as que 5 minutes où tu vas être monstrueux. Bah, c'est assez marrant que ce soit un peu dans ce truc-là, mais en vrai, avec Costa, le mec sait qu'il faut vraiment se dépêcher parce qu'il a plus beaucoup de temps dans sa forme finale Dragon Ball Z, tu vois.
Oh, putain. Bien formidable, mon cher Rust. Demain, nous parlerons de Rakic, de Robbie Lawler et d'Islam Makhachev parce qu'il va avoir un énorme choc à l'UFC 254. Voilà, ça vient de tomber. Big shout out to My Sweet Protein, moins 38% avec le code de la sueur. Et puis, voilà. Et puis à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur avec qui nous préparons de belles choses. Allez, à très vite.
Soir.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.